écrit d'ici, avec le Ciala. C-I-A-L-A.
Collectif interculturel des auteurs de Loire-Atlantique.
Rencontrer un auteur, ça vous dit ?
Alors, retrouvez-nous le premier mercredi de chaque mois sur Jet FM 91.2 à 17h30 et en rediffusion le troisième mercredi du mois, toujours sur Jet FM 91.2 et toujours à 17h30.
Et en podcast sur jetfm.asso.fr.
Bonjour à tous et à toutes. Bonjour André.
Bonjour.
Bonjour Martine.
Bonjour.
Bonjour Daniel Bercheux.
Bonjour à tous et à toutes.
Écrit d'ici, l'émission qui donne la parole aux auteurs, reçoit aujourd'hui Daniel Bercheux pour son deuxième roman qui s'intitule « Les rêves ne disparaissent jamais », paru en 2020 aux éditions Spinel. Alors Daniel Bercheux n'est pas complètement un inconnu puisque nous l'avions déjà reçu en décembre 2019 pour son premier roman qui s'intitulait « Un amour infini » qui était paru en 2018. Merci Daniel d'être venu nous voir. Si habituellement on dit que tout travail d'écriture laisse plus ou moins percevoir quelque chose de l'expérience personnelle de son auteur, là votre deuxième roman affiche clairement une des similitudes presque parfaites avec votre parcours. Est-ce que ce roman-là, c'est un peu comme un bilan, comme un témoignage, c'est un peu comme ça que nous on l'a perçu. Alors c'est vrai qu'on connaît, on avait vu aussi des choses un peu lors de la dernière émission. Est-ce que c'est un bon regard sur le travail ou pas du tout ?
Oui et non. En fait, c'est plutôt une autofiction. Je dirais que j'y ai mis beaucoup de moi, mais à travers ce qu'on raconte, on déforme toujours un peu. Donc effectivement, j'ai parlé de mon parcours de comédien parce que ça a été une blessure intérieure et que je l'avais fermée, cette blessure. Et puis avec l'écriture, je l'ai réouverte et j'ai pu en parler de manière spontanée et libre, sans blessure, quoi. Voilà. Et donc, effectivement, je raconte un parcours d'écriture, un parcours... Un parcours d'artiste, de comédien, et qui n'a pas abouti. Et par contre, le héros de mon livre va finir en étant écrivain. Donc voilà, et c'est son petit-fils qui va reprendre son rêve.
Merci beaucoup.
Donc justement, au début du roman, Antoine a 15 ans. Il vit en Normandie dans une famille d'ouvriers qui prône les valeurs de travail, de persévérance, de fierté et d'obéissance. Il se découvre une passion pour le théâtre au collège. Pendant quelques années, il en fait l'objectif de sa vie, au grand dam de ses parents. Il s'inscrit en fac de lettres à Paris. Il est admis au Théâtre Populaire de Reims. De retour à Paris, il s'essaie au cinéma, il donne des cours de théâtre et s'éloigne petit à petit du métier de comédien. C'est à Rezé qu'il trouve un second souffle dans un centre socio-culturel. André nous lit un premier extrait.
Le décor imposant de la pièce « Crime et châtiment » impressionnait Antoine qui n'avait jamais approché de près une telle réalisation. Robert Hossein donnait ses dernières consignes. La troupe des pros répétait sous les ordres du metteur en scène. L'ambiance était électrique sur le plateau. Antoine avait un petit rôle. Il attendait son tour et donnait ses répliques avec la boule au ventre. « Bon, c'est pas trop mal. » « Suffisant pour ce soir, vous pouvez partir. Émile, on va rester pour régler les lumières. » Antoine restait alors que les autres étaient partis. Il voulait connaître les ficelles de la mise au point des éclairages. Il tenait à se familiariser avec les termes techniques. Tapis dans un coin de la salle, il écoutait les consignes de Robert Hossein. Antoine n'en perdait pas une miette. Il restait aussi quand les effets de son et de musique étaient au programme. Il profitait de chaque instant avec les techniciens pour apprendre. C'était la meilleure école pour connaître toutes les facettes du métier. Il ne voulait pas se contenter d'être acteur. Il avait l'ambition de devenir un homme de spectacle complet. Le jour de la première de Crime et Châtiment approchait. La tension montait quand les comédiens ne respectaient pas à la lettre les consignes de Robert Hossein. Les moindres détails d'une scène étaient repris jusqu'à la perfection. Les bagarres assurées par les élèves étaient réglées au cordeau par le cascadeur attitré. Robert Hossein était un perfectionniste. Il tirait le maximum de toute l'équipe. C'était un sacré meneur, infatigable et exigeant. Antoine avait passé son baptême des planches et s'était montré à la hauteur des attentes du metteur en scène. Il savourait ses premiers succès. Il vivait intensément ce moment sans se projeter. Il savait que la route serait longue pour accéder à son rêve. Antoine se rendait chaque soir au théâtre de la Maison de la Culture, une heure avant le lever de rideau. Assis au fond de la salle, il savourait le jeu des acteurs professionnels. L'exigence de Robert Hossein mettait chaque fois la pression et les comédiens devaient se donner à fond chaque soir. Sa fougue avait le mérite de tirer toute la troupe vers le haut. C'était donc cela, le dur métier d'acteur, une école de la rigueur, du travail bien fait, quel que soit son état physique, une répétition des efforts réguliers, une écoute de ses partenaires et en point d'orgue, le respect du public. En quelques mois au contact des pros, à l'épreuve de la scène dans des conditions réelles, Antoine avait beaucoup appris. Il n'écoutait pas les pessimistes qui lui disaient qu'ici, il était choyé et qu'à la sortie de leur année d'études, cela serait une autre paire de manches. Rien ne le ferait dévier de son ambition. L'élève comédien vivait son rêve à fond. Endurci par les revers subis, Antoine gardait la tête froide et bossait dur, sans écouter les autres.
Alors moi j'ai en fait une première question concernant le théâtre justement, puisque André vient de lire un passage concernant ça. À un moment donné, dans le livre, tu parles de la spontanéité de l'acteur. Et parce que tu as un professeur, si je me souviens bien, parce que je l'ai lu, il y a un professeur qui est un peu sévère, un peu même, qui a des façons de faire un peu, comment dire...
Autoritaire.
Autoritaire, voilà. Et que donc, tu dis que en fait, ça t'enlève ta spontanéité.
Ça me l'a enlevé.
Voilà. Mais moi, par contre, j'ai été surprise en lisant ça, parce que pour moi, un acteur, à force de travail et de travail, quoi, en fait, la spontanéité, il n'en a plus vraiment, puisque tout, c'est plutôt, je dirais, parlerait plutôt d'une incarnation de personnage, et que, enfin, dans tous les comédiens que je vois quand je vais voir des spectacles, je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de spontanéité, donc je voulais quand même que tu me parles.
Alors
de ça, quoi.
Je vais répondre, tu as raison sur le fond, mais on doit partir de son caractère, de ce qu'on a au fond de soi. Et moi, j'y allais à fond, quoi. C'est-à-dire que effectivement, on travaillait beaucoup de rôles. Et François Florent, qui était à l'époque mon professeur et qui vient de nous quitter d'ailleurs, nous laissait faire. Et ensuite, on peut incarner avec les indications du metteur en scène, on peut incarner en profondeur son personnage, comme tu le signales. Mais ce professeur-là, il m'a cassé. Il m'a cassé en disant « t'es ringard, ce que tu fais, c'est ringard ». Donc c'était un jugement. Donc je parle de spontanéité, mais en fait, il m'a dit « on pourrait dire maintenant, t'es à chier, t'es ringard ». Et on jouait du boulevard, on jouait du labiche, on jouait des trucs où il y avait... Il y avait du rythme, etc. Et moi, je m'éclatais là-dedans. Je voyais mon prof qui riait, qui disait bravo. Et puis l'autre, qui était avec son col Mao, tout en noir, le teint mat, etc. Et ben, qui jouait du Genet, qui jouait du Beckett, etc. Où il fallait, se poser et puis faire le théâtre Nouvelle Vague de l'époque. Donc, c'est ça qui a cassé ma personnalité. Après, j'osais plus, quoi. Voilà, c'est comme ça que je l'ai ressenti.
D'accord.
Alors moi, j'avais une autre
question. Et c'est comme ça que je l'ai écrit.
D'accord. Oui. Une autre question, peut-être, à revenir sur la question de l'écriture. Donc tout à l'heure, tu disais effectivement une autofiction, avec quelque chose qui t'appartient, puis des choses qui sont romancées. Moi, dans ce livre-là, j'y ai vu aussi la question du parcours. Alors, on y voit ce qu'on veut aussi en tant que lecteur, hein, mais avec énormément de bifurcations, en fait, dans le parcours qui est décrit. Donc, on a bien vu, je dirais, une espèce d'engagement d'abord comme apprenti comédien, avec une vraie envie. Puis, à partir du moment où cette envie-là a été freinée, où cet engagement a été freiné, pour les raisons que tu viens d'expliquer, quelque chose un peu qu'on pourrait qualifier soit d'éparpillement ou de bifurcation. Et moi, ça m'évoque toujours des parcours de vie, avec les orientations qu'on prend qui peuvent engager une vie. Par exemple, tu expliques ta prise de poste de directeur au centre socioculturel
d'Orpo. À l'époque, c'était animateur.
Pardon, animateur, petit j'utilise animateur. Les vocables de d'aujourd'hui. Mais en fait, sur quoi ça ne s'est pas joué sur grand-chose, hein, tu le dis toi-même. Et je ne sais pas s'il y avait une intention un peu aussi de témoigner du parcours, des orientations qu'on prend, des choix que l'on fait ou que l'on ne fait pas, et comment ça tient une vie.
Oui, ça ne tient pas grand-chose parfois. Et puis, et tu as raison de souligner que le parcours de vie. Là, dans le roman, je fais partir Antoine sur les chemins de Compostelle. Or, moi, je n'ai jamais fait ça. Mais c'est comme si moi, Antoine, avait fait ce parcours-là simplement dans sa tête. Mais pour des raisons romanesques, je me suis dit, tiens, je vais le faire partir sur le chemin de Compostelle. Quand on marche, on réfléchit, etc., etc. Et donc, moi, ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que j'avais deux marottes, enfin une marotte davantage c'était le théâtre, et j'avais aussi de côté les lettres modernes, car je devais assurer mes arrières, parce que je savais que le théâtre, j'ai vu tout de suite que ce serait un peu risqué, donc j'ai fait les deux à la fois. Et après, je me donne des bonnes raisons en disant qu'en faisant les deux à la fois, j'ai pas totalement réussi l'un ni l'autre, donc j'ai choisi une voie un peu médiane, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, l'animation socioculturelle par hasard, parce que c'était la vague des villes qui avaient été prises par la gauche en 77, et moi je suis arrivé sur les banlieues nantaises en 78. Et j'ai voulu ne pas raconter cette carrière d'animateur, ça ne m'intéressait pas dans le roman, mais de montrer le début et la fin. Voilà, deux chapitres.
Ben justement, André va nous lire un passage qui concerne ça, je crois. Hein.
Un soir, en rentrant de Vincennes, après un dîner bien arrosé chez mon ami Dimitrios, Antoine découvrit une lettre à l'entête du rectorat de Paris. Il l'ouvrit rapidement. « Monsieur, j'ai l'honneur de vous faire savoir que vous êtes nommé sur un poste d'animateur théâtral à mi-temps au collège Grenier-Assel. » Il sauta de joie et se cogna sous la soupente de sa chambre. Il ressortit illico, il voulait annoncer la nouvelle à Claire. « Je viens de recevoir une lettre de nomination pour un poste d'animateur théâtral dans un collège. »« Ah, c'est bien, c'est ce que tu voulais, non ?»« Disons que j'en ai marre de galérer chaque fin de mois, de tirer le diable par la queue. Te voilà sorti d'affaire. »« Oui, en partie. » Je pourrais terminer mes études de cinéma et poursuivre mon activité théâtrale. Bravo, mon minou, je suis tout ému. Tu vas peut-être devenir plus sociable. C'est ainsi qu'Antoine fit ses premiers pas dans ce nouveau quartier. La chaleur et l'engagement des habitants le touchèrent. Le challenge était rude à relever, mais il aimait les défis. Il tournait le dos à sa carrière artistique, mais allait développer des actions culturelles sur un nouveau quartier de 3000 habitants. Il serait un passeur de culture, après avoir été lui-même un créateur. À sa façon, il serait un bâtisseur. La quille. La foule des grands jours était rassemblée dans la grande salle du centre social. Des amis, des élus, des salariés, des bénévoles avaient tenu à être là pour le pot de départ d'Antoine à la retraite. Et oui, déjà. Les mauvaises langues disaient qu'on l'y avait un peu poussé. Ce n'était pas complètement faux. Cette cérémonie lui paraissait tellement superficielle. Finalement, le temps passant, il acceptait de mieux en mieux cette fin de carrière en queue de poisson. Il avait d'autres perspectives, d'autres projets, et il profitait du temps libre pour vivre enfin. Dans son discours d'adieu, il insista sur ce qu'il avait toujours prôné, à savoir le nécessaire développement culturel dans les quartiers déshérités. Son éloquence, son assurance donnèrent à ses propos la portée qu'il souhaitait. Il en profita pour souligner la frilosité des communes à financer les projets émanant des cités. Il rappela son engagement au service de l'éducation populaire, véritable moteur de son action durant toute sa carrière. L'animateur, puis le directeur de centre social qu'il fut pendant plus de 30 ans, n'avait aucunement oublié son passé artistique. Personne ne put lui ôter cette fibre culturelle qu'il avait héritée de son parcours de comédien et de cinéaste averti. Il fut un brillant passeur de culture.
Merci André. Alors pour la pause musicale, Daniel a choisi L'institutrice, une chanson de Dick Annegarn de 1974.
Madame l'institutrice est morte ce matin.
Madame l'institutrice est morte ce matin.
Dans l'eau de son bain.
Ce matin à l'aube, dans l'eau de son bain. Il y en a qui disent qu'elle est décédée. Moi je dis, elle s'est suicidée. Elle était petite et grisonnante, habillée habile comme une gouvernante. Ses armoires de farde et de devoirs ne protégeaient plus son histoire.
Tu peux chanter, hein.
C'était hier au cours d'histoire, l'Empire romain contre les barbares. C'est, elle dit, le début de la fin. L'Empire romain périra demain. Elle était petite et grisonnante, habillée habile comme une gouvernante. Ses armoires de farde et de devoirs ne protégeaient plus son histoire. Sans doute que peut-être que c'est mieux ainsi. L'Empire romain au paradis. Et nous ici, sans institution, sans institutrice, à Chignon. Elle était petite et grisonnante, habillée habile comme une gouvernante. Ses armoires de farde et de devoirs ne protégeaient plus son histoire. Sa vie à elle était loin d'être belle. Mademoiselle, madame, veuve et mademoiselle, voyez ce que je veux dire, voyez peut-être pas ce que je veux dire, je ne le dirai pas. Elle était petite et grisonnante, habillée habile comme une gouvernante. Ses armoires de farde et de devoirs ne protégeaient plus son histoire. Oh, vai, die, oh, oh, da, di, di, do. I did all by day down for by day down the heart is all by your bones go home.
Vous êtes bien sur Jet FM 91.2 dans l'émission du Ciala écrit d'ici. Nous sommes en compagnie de Daniel Barcheux pour son roman Les rêves ne disparaissent jamais.
Oui, donc Daniel, une question plutôt sur la place de la famille dans le roman. Alors, moi, je la notais omniprésente, à la fois, comme l'a dit Martine dans le résumé, parce que c'est quand même le creuset de la construction, donc avec des valeurs hein, qui sont assez présentes, avec un regard quand même un petit peu, comment dirais-je, un petit peu soupçonneux sur ce qu'est une carrière de comédien. Peut-être que c'est intéressant de faire un vrai métier, hein, parce qu'il y a de l'inquiétude sur le parcours. Donc, elle est à la fois omniprésente, soit très présente dans ta vie ou dans la vie du héros, là, du personnage, ou très absente, mais en tout cas, et puis surtout, c'est un lieu ressource. Hein, c'est un peu décrit ce retour au sein du giron familial quand notamment la carrière de comédien est très attaquée par ce professeur extrêmement autoritaire. Et puis après, on retrouve alors plutôt ta famille, celle que tu as construite, au moment de la prise de poste là, comme animateur socioculturel. Donc il y a toujours une espèce d'aller-retour entre la question professionnelle et puis la question de la famille. Donc voilà, c'était pour avoir un écho hein, à cette omniprésence de la famille et puis la place, le jeu, le rôle, pour toi en tout cas, que
d'accord,
ça a eu.
Oui, effectivement, tu as raison de le souligner, ça a été à la fois une richesse et un handicap, je dirais, parce que la valeur travail était omniprésente et puis on n'avait pas le choix dans une famille d'ouvriers. Il fallait soit réussir à l'école, soit rentrer dans l'usine où travaillait mon père. C'était ça l'univers. Donc moi, comme je ne voulais pas faire ce que faisait mon père, je le décris dans le roman, donc je faisais tout pour passer d'une classe à l'autre de manière moyenne, contrairement à mon frère aîné qui était, lui, très brillant. Et donc, quand j'ai réussi ce concours pour rentrer à l'école de théâtre, eh bien, ma mère a mis les bâtons dans la rue en disant « Mais non, il faut que tu continues tes études. Un métier de comédien, ce n'est pas un métier, etc. » Donc, on a fait un deal. Et puis, donc, j'ai fait ce que je décris, ce dilemme. J'ai suivi les deux. Et j'aurais voulu suivre qu'une seule voie. Mais ensuite, il y a le deuxième volet, celle qu'on construit, la famille qu'on construit. Et on l'a construit un petit peu en opposition à celle qu'on a eue, qui était beaucoup plus restrictive dans les libertés, je dirais. Et puis, celle-ci aussi se déconstruit petit à petit. Mais ça, c'est la vie.
Et est-ce que le fait d'avoir fait ce deal, en fait, hein, d'avoir été fidèle quand même à la question familiale, tout en étant assez en désaccord. Est-ce qu'aujourd'hui, tu dis, peut-être que j'aurais dû aller à fond sur cette question-là, sur la question de mon rêve. Mon deal m'a empêché peut-être que
oui,
ça aboutisse.
Oui. Alors, c'est ce que je me dis. Je me donne une bonne raison pour dire, Daniel, t'étais un comédien raté. Si tu veux pousser le bouchon, maintenant, je peux le dire. Mais il y a une époque, non, c'était une blessure intérieure. J'ai fermé ça. Les gens ne savaient pas que j'avais fait du théâtre quand je travaillais. On voyait que je présentais des spectacles, j'étais à l'aise à un micro. Je savais jouer un petit peu la comédie. Je présentais des galas, j'organisais des fêtes, etc. Mais finalement, avec le recul, avec les années, avec les décennies qui sont passées, cette passion un petit peu pour la littérature, je l'ai eue quand même, et c'était une réelle passion, et ça s'est réveillé quand j'ai arrêté ma carrière professionnelle. Donc en fait, ça m'a servi quand même.
Merci.
Bon, André, pour un dernier extrait.
Antoine se souvint de sa première nouvelle, L'inconnu du Jardin des Plantes. Des amis l'avaient lu et leurs remarques encourageantes le confortèrent dans son choix d'écrire encore davantage. Chaque jour, Antoine travaillait 3 à 4 heures comme un artisan amoureux de son métier. Un jour, il poursuivit l'histoire qu'il avait commencée la veille. Son héros, Étienne, venait d'avoir un grave accident sur la route des vacances alors qu'il rejoignait sa femme et ses 2 enfants dans le sud de la France. Chaque soir, avant de trouver le sommeil, il réfléchissait au déroulement du récit. Qu'allait-il se passer ensuite? Quelles conséquences cet accident aurait-il sur la vie de famille de son héros? Et ce fut le début de la fabuleuse aventure de l'écriture d'un roman. L'apprenti écrivain fourmilla d'idées et se mit sans tarder au travail. Il déroula le fil de l'histoire comme celui d'une pelote de laine et le roman s'élabora par petites touches. Un matin, en prenant son petit déjeuner, l'apprenti écrivain trouva la chute de l'histoire. Un roman était né. Sans se faire d'illusions, Antoine adressa son manuscrit à une dizaine d'éditeurs repérés sur leur site internet. Trois mois plus tard, après avoir reçu, à sa grande surprise, plusieurs propositions positives, son premier roman, Un amour éternel, sortit des rotatives. Quelques jours après, Antoine reçut un exemplaire du précieux objet qu'il feuilleta avec avidité, reniflant encore l'odeur fraîche de l'encre. L'aventure de l'écriture trouvait un aboutissement. L'écrivain devenait écrivain.
Alors, on arrive à la fin de l'émission. Donc, la question un petit peu rituelle. Donc, du coup, tu as écrit ton deuxième roman. Est-ce que tu as l'intention d'en écrire un troisième ?
Ah ben oui, oui, il est déjà bien avancé.
Ah bon ?
Déjà 19 chapitres d'écrit.
D'accord.
Et voilà, c'est une autre histoire. Et là, je suis parti.
D'accord.
Du parcours d'une jeune émigrée.
Voilà. Ah oui, donc ce n'est pas tout à fait la même chose.
Absolument pas.
D'accord. Alors, donc, avant, donc, tu vas nous... Parce que tu as plusieurs cordes à ton arc. Donc, juste avant que tu nous fasses une petite annonce, je veux quand même en faire une, puisqu'on a le Festival Atlantide hein, qui a lieu du 24 au 27 février, au lieu unique. Voilà, comme, j'allais dire comme d'habitude, mais enfin, l'année dernière, il a été annulé quand même. Hein.
Bon, ah alors... Non, il a eu lieu en
ouais,
juin.
Oui, mais en juin, alors bon.
C'était un demi-festival.
Oui, voilà. Donc, c'est à toi.
Oui, et ben, je fais aussi du slam poésie, donc ce qui fait que j'ai renoué avec le théâtre, avec la scène. Et puis, le slam poésie, vous savez tous que ça se passe dans les bars. Et on fait ça avec une association qui s'appelle Les Lapins à Plumes. Et c'est le troisième mercredi de chaque mois en général. Et puis, il y a Appelle-moi poésie, où les scènes se déroulent le dernier vendredi de chaque mois au lieu, le Café des Pangolins. Voilà. Et puis, pour une petite dédicace, je vais vous faire part d'un slam très court. Et puis, je vous encourage... Après, à dénombrer le nombre, ça fait une redite ça, mais c'est pas grave, il y a un certain nombre de titres dans mon texte. Donc je vous le lis, à vous de trouver le nombre de titres de romans qui est dans ce texte. Ça s'appelle « Voyage insensé ». Un parfum d'encre et de liberté nous avait saisi un soir de bringue. Un dernier verre au bar sans nom, un dernier slow, et crac, en voiture Simone, nous prime la poudre d'escampette par un beau soir de lune. C'était un voyage au bout de la nuit, à bord d'une belle Maserati rouge, et nos cheveux volaient au vent. Allons voir si Venise n'est pas en Italie, avait crié Giovanni. Quelle mascarade, avait gémi Hugo. « Nous sommes des gens très bien », avait répliqué Victor. « Vive nos années sauvages sous les orages de l'été », avait-il hurlé à l'unisson. Albert, sur la banquette arrière, dormait comme un sonneur. Nous passâmes devant le château de Dracula, la cité des miroirs et la princesse de Crèves. Mais jamais nous ne vîmes Venise. Nous avions trop la tête en friche. Basta la fête des fous, la divine comédie. Désormais, c'est la renverse. Demi-tour, fin de ronde. La commedia, elle finita pour le gang des rêves. Mais nous ne regrettons rien. La vie est brève et le désir sans fin.
Merci. Bah c'est, on a envie d'aller vous voir au Pangola, c'est ça.
Il n'y aura pas que moi, il y en a une vingtaine d'autres.
Ouais. Allez, donc pour finir, Suzanne de Leonard Cohen, choisie bien sûr par Daniel.
Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by, you can spend the night beside her. she's half crazy.